Ouvrez votre Bible dans l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, que vous allez bientôt connaître par cœur, force de lire, et j'espère que vous avez pu lire. J'espère que vous avez pu faire quelques questions quand même, chercher quelques questions pour aujourd'hui. Bon, le but n'est pas de tout faire forcément, mais de regarder le texte, de le lire, de méditer là-dessus. Et puis de réfléchir. Donc je vais quand même lire les versets 3 jusqu'au verset 7. Parce qu'on va pas dépasser le verset 7 en fait. Je crois pas ce soir. Donc je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, on va pas revoir ce qu'on a vu la dernière fois, mais on avait vu quand même, globalement, que dans le verset 3, l'apôtre Paul dit qu'il a laissé Timothée à Éphèse. Il lui rappelle quelle était la mission qu'il lui avait confiée, qui était de ramener de l'ordre en faisant taire ceux qui enseigne une autre doctrine. On avait dit que « autre », c'était vraiment d'une autre nature, quelque chose qui n'est pas selon ce que l'apôtre Paul lui-même avait enseigné. Donc, tout ce qui n'est pas selon l'enseignement apostolique est hérétique, par nature, parce que c'est aux apôtres qu'a été confiée la parole de Dieu. Et c'est par là que nous devons aussi être enseignés. Et donc il continue, après il explique ce que les conséquences que cela peuvent avoir. Il dit que ces choses produisent des discussions qui sont plus de discussions, entre parenthèses, inutiles, plutôt que ça ne fait avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et puis, on arrive au but, donc il vous dit maintenant le but de cette recommandation, parfois vous avez le but de ce commandement, peut-être dans votre Bible, suivant la traduction que vous avez, et ce commandement dont il parle, c'est ce qu'il vient de dire au verset 3. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Le commandement, la recommandation, c'est d'empêcher à des personnes d'enseigner d'autres doctrines. Alors, quel est le but de ce commandement-là? Qu'est-ce que vous avez mis ici? C'est facile, hein? Le but de ce commandement, c'est l'amour. Je ne sais pas si vous aviez eu à écrire, enfin, si on nous avait caché la suite de ce passage, où l'apôtre Paul dit ceci: je te recommande de ne pas laisser certaines personnes enseigner d'autres doctrines, parce qu'ils partent dans des fables, etc. Et puis cela ne produit que des discussions plutôt que de faire avancer l'œuvre de la foi, l'œuvre de Dieu dans la foi. Et donc le but de cette recommandation, c'est, et puis on vous laisse continuer, si vous n'aviez pas encore lu cela. Moi, j'aurais eu tendance à mettre le but de cette recommandation, c'est de préserver la pureté de la doctrine, ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais j'aurais pas pensé à mettre le but de cette recommandation, le but de ce commandement, de cette instruction, de cette prescription que je te donne, d'empêcher aux autres d'enseigner, c'est l'amour. C'est presque pas naturel pour nous, et pourtant c'est la vérité ici. L'apôtre Paul dit que le but du commandement qu'il donne, c'est l'amour. L'amour pour qui? On pourrait se poser comme question. L'amour pour Dieu, oui, certainement, mais certainement aussi pour les autres membres de l'Église. Ici, l'Écriture associe toujours les deux choses, n'est-ce pas? L'amour pour Dieu et puis l'amour pour les autres. Vous vous rappelez de cette question? Bon, dans l'Ancien Testament, c'est déjà mis, mais c'est cet homme qui vient poser à Jésus cette question, puis qui lui dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que Jésus répond? Dans Matthieu chapitre 36, chapitre, pas 36, qu'est-ce que j'ai mis ici? Je me suis trompé de la référence. C'est quoi? C'est 36 à 40, mais j'ai pas mis le bon chapitre. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, ça c'est le premier commandement. Et puis, il dit, et tu aimeras, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, il y a les deux pendants, hein, l'amour pour Dieu, de tout son cœur, de son âme, et puis l'amour pour le prochain. Et qui est, il dit, c'est son semblable. L'apôtre Paul, en Romains, il dit même que l'amour pour le prochain, c'est l'accomplissement de toute la loi. Hein. Il le dit de cette manière-là. Donc, quand Paul parle de cet amour, je pense, on peut penser, il parle de l'amour pour Dieu, bien sûr, mais l'amour aussi pour le prochain. Et donc, une question que je vous pose ici, c'était un peu la seconde, comment est-ce que on peut articuler un peu, parce que vous avez bien compris cette question, elle n'est peut-être pas bien posée ma question, mais articuler cette interdiction d'enseigner et l'amour. Hein, je peux rajouter, peut-être le dire autrement, en quoi interdire à certaines personnes d'enseigner des fausses doctrines contribue à l'amour? Est-ce que vous avez médité un peu sur cela? C'était un peu le sens de la question. Comment l'amour s'articule avec la vigueur de l'opposition au faux docteur? Tu n'avais pas compris? Oui. Bon, alors, si vous avez compris maintenant, peut-être vous avez une idée, je ne sais pas. En quoi, je la redis, en quoi est-ce que, peut-être j'aurais dû la poser comme ça, en quoi est-ce que le fait de s'opposer aux faux enseignants contribue à l'amour?
On peut empêcher de se perdre.
Oui. Oui, voilà, c'est ça. Ça permet de garder spirituellement, préserver, en plus empêcher de se perdre, préserver la saine doctrine. Oui. Oui.
Celui qui aime Dieu, il aime sa parole.
Oui.
On
ne
peut pas dissocier.
Dissocier, les deux. Oui, voilà. Celui
si on aime Dieu, en tant qu'un individu, oui, ou en tant qu'une église,
oui,
on devrait tout faire pour sauvegarder sa parole.
Aussi. Voilà. On est soucieux donc de la pureté de sa parole, oui. Mm-hmm. Très bien.
Professer la vérité dans l'amour.
Oui, professer la vérité dans l'amour. Ouais. Donc quand on professe la vérité en droit, on a pour objectif l'amour. Moi, j'ai mis une chose, c'est que cette mais ça rejoint ce que vous avez dit. Hein, laisser faire, je le dis comme ça, laisser faire les enseignants. C'est manquer d'amour pour les membres de l'Église, les faux enseignants. Laisser faire les faux enseignants, c'est manquer d'amour pour les gens de l'Église. Parce que ces faux enseignements, comme a dit Lucie tout à l'heure, risquaient d'égarer les membres de l'Église. Et c'est manquer d'amour que de laisser des brebis s'égarer. Si on sait qu'un faux enseignement va conduire à l'égarement des brebis, c'est un manque d'amour que de laisser faire les choses. Et de dire, bon, après tout, ils sont au Seigneur, etc. C'est comme cet homme que j'avais rencontré, et puis qui dit, et voilà, bon, moi, je rencontre les gens, je leur témoigne de l'Évangile, je les baptise chez eux, et puis je les laisse. Ils se débrouillent. Je dis, mais ils n'ont pas d'église. Ils disent, non, ils n'ont pas besoin d'aller dans une église. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'Écriture, et ça suffit. D'accord? On voit que là, visiblement, n'est rien que dans l'Épître à Timothée, s'inscrit en faux contre cela, nous avons besoin d'être enseignés. Jésus a donné les uns comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs pour le perfectionnement du corps. Et donc, on a besoin, on ne peut pas laisser une brebis à sa merci où elle peut avoir une nourriture par là, et puis ne pas savoir pouvoir discerner les choses. Donc, c'est un manque d'amour que de ne pas, que de laisser les enseignants enseigner de la fausse doctrine. Et dans Actes chapitre 20, vous vous rappelez verset 28, qu'est-ce que Paul avait dit aux anciens de Éphèse que ils avaient rencontrés à Milet? Il leur a dit de prendre garde à eux-mêmes d'abord, et puis ensuite au troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques pour paître. Hein, pour paître, il dit pour paître les brebis, enfin le troupeau du Seigneur, c'est comme ça qu'il dit, hein, l'église du Seigneur, pardon, pour paître l'église du Seigneur, acte 20, 28. Hein. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Il y a pas très longtemps, il y a des personnes qui sont venues ici et puis qui essayaient d'enseigner autre chose. Je leur ai dit qu'ils ne devraient pas faire cela, mais que nous ne les laisserions pas non plus le faire. Et l'une de ces personnes m'a dit, ce sont ici les brebis du Seigneur, ce ne sont pas les vôtres, vous n'avez pas les droits de les prendre en otage. J'ai dit, je ne les prends pas en otage, mais je crois que le Seigneur nous a confié la charge de ces personnes, et on a la charge de les garder contre les loups ravisseurs. Et ils ont compris ce que j'ai voulu dire. Après ils sont revenus, finalement ils ont disparu. Mais j'ai fait comme Steve avait dit une fois, je leur ai dit, si vous venez pour écouter, vous êtes les bienvenus. Mais si vous venez pour enseigner vos doctrines, vous n'êtes pas les bienvenus. Et on n'acceptera pas. Et je pense qu'on a été assez ferme, et ils ont fini par comprendre. Mais des fois, c'est nécessaire d'aller jusque-là, parce que laisser faire, ça veut dire qu'on n'a aucun intérêt de souci pour les âmes. C'est même pas la peine qu'on soit là, on n'a aucun souci pour les âmes. Si on sait que ça, c'est de l'erreur, et on ne dit rien, on n'a pas de souci pour les âmes. Donc, le but du commandement, de ne pas laisser enseigner, c'est quand même, ça montre qu'il y a de l'amour, c'est parce qu'on aime le troupeau que l'on agit ainsi. Mais c'est aussi, j'ai noté une deuxième chose, c'est que laisser faire les enseignants, c'est manquer d'amour pour le Seigneur lui-même. C'est manquer d'amour pour le Seigneur lui-même. Et ce sont les brebis du Seigneur. Et elles lui sont précieuses, hein, ces brebis-là. Et on se souvient comment est-ce que le Seigneur Jésus, vous vous rappelez, a confié ses brebis à l'apôtre Pierre. Dans Jean chapitre 21, verset 15, par trois fois, Jésus lui pose une question. Et quelle était cette question ? M'aimes-tu ? Il n'a pas dit, Pierre, est-ce que tu aimes prêcher ? Pierre, est-ce que tu aimes la théologie ? Hein ? Est-ce que tu aimes discuter de la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu et tout ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ? Non ! Il dit, Pierre, m'aimes-tu ? Et écoutez, je vais vous lire, il dit ici, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Et Simon répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et puis il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit, est-ce que tu m'aimes ? Occupe-toi de mes brebis. Et donc, ne pas laisser faire les faux docteurs, c'est non seulement un manque d'amour pour les brebis, mais c'est un manque d'amour pour le Seigneur des brebis même, pour le Seigneur Jésus lui-même. Et donc, dans ce sens, on voit que le commandement contribue à l'amour. Mais troisièmement, on pourrait aussi ajouter que laisser faire les enseignants, c'est manquer d'amour pour les faux enseignants eux-mêmes aussi. Parce que c'est les laisser ne pas contribuer, s'empêtrer dans ce faux enseignement, ne pas les avertir qu'ils sont sur une pente glissante. Et c'était des gens qui étaient dans l'église probablement et que ça risque d'être désastreux pour eux. La parole dit dans 2 Timothée chapitre 2, 24 et 25, regardez cela. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 et 25. L'apôtre Paul parle à Timothée aussi de comment un serviteur de Dieu doit être. Et il dit au verset 24 du chapitre 2, 2 Timothée 2, verset 24, il dit, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur qui ? Les adversaires. Mais dans quel but ? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez ici, Paul dit à Timothée, voilà, le serviteur, c'est comme ça qu'il doit être. Il doit redresser, donc c'est ce qu'il demande à Timothée de faire avec ces personnes qui enseignent des doctrines erronées, mais le but n'est pas de les condamner. Le but aussi, c'est de chercher à ce qu'ils reviennent à leur bon sens, que le Seigneur leur donne, prier même pour que le Seigneur leur donne la repentance. Et donc, les reprendre, les stopper dans ce qu'ils font, ça contribue aussi à l'amour. C'est manifester de l'amour aussi pour ces personnes. Et donc, c'est les laisser faire, hein, c'est manquer d'amour à l'égard même de ces personnes qui enseignent de fausses doctrines. Voilà. Donc, le but du commandement, on pourrait dire, hein, si on peut résumer ça ainsi, effectivement, c'est l'amour. Il y a peut-être plus de dimensions qu'on pourrait voir. Bon, je n'ai vu ces trois-là. Mais le but du commandement, c'est l'amour, hein, parce que cela vraiment contribue à l'amour. Même si c'est ferme, ce que Paul demande de faire, mais ce n'est pas parce que c'est ferme que ça manque d'amour. La fermeté n'est pas incompatible avec l'amour. L'interdiction d'enseigner qu'on peut imposer à quelqu'un n'est pas incompatible avec la marque d'amour. Cela peut se faire dans l'amour. Une interdiction à quelqu'un ou à des personnes peuvent se faire tout à fait dans le cadre de l'amour. Alors, quelle est la source de cet amour? Je vous pose la question, d'après le texte ici. Quelle est la source de cet amour? Qu'est-ce qu'il dit? Trois choses. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Donc, je vous avais demandé de réfléchir à ces trois choses. Je ne sais pas si vous avez pu le faire. Alors, un cœur pur. Qu'est-ce que on entend par un cœur pur? Un cœur sans péché? Oui. Est-ce qu'on peut être sans péché? Oui, c'est vrai que il y a ce sens-là de pur, que c'est exempt de péché. Je suis d'accord avec ça, mais c'est vrai que dans la réalité, est-ce que on arrive à cela comme ça? Un cœur, voilà, régénéré, voilà, c'est, alors ça veut dire quoi un cœur régénéré? Le mot régénéré, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Oui, tout le monde? Oui. Que Dieu a purifié, oui. Qu'il a changé, voilà. Ok, qu'il a fait renaître, autrement, on peut dire ça comme ça, ok. Donc, cœur pur, hein, on pourrait penser à sans péché, c'est vrai, donc un cœur régénéré. D'autres choses? Sans tromperie. Sans tromperie. Sans duplicité, hein, donc duplicité, c'est être un peu double, hein, avoir. Ok, oui, tu disais quelque chose.
Un cœur proche de Dieu.
Un cœur proche de Dieu, oui, tout cela aussi, c'est bien. Alors, le cœur, c'est quoi le cœur? C'est ce qui fait boum, boum, boum ici. C'est le siège. Souvent dans l'écriture, hein, c'est considéré comme, oui, le siège des affections. C'est utilisé de manière métaphorique souvent, et pour désigner l'être, on dit pour désigner l'être intérieur, hein, pour désigner l'être intérieur. Donc c'est le siège des affections, de la pensée aussi, puis même de la volonté. Hein. Par exemple, Jésus dit pour la pensée, il dit et Jésus connaissait leurs pensées et dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs. Hein. Qui fait du cœur le siège même de la pensée. Ok, ça c'est bien. Et le mot pur, qu'est-ce que c'est le mot pur?
Sans,
alors, oui, vous avez regardé un petit peu, peut-être quelqu'un a eu l'occasion de regarder qu'est-ce que ce mot-là tout seul, comment il était traduit? Sans fraude, oui. Alors, le mot qui est utilisé, oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Purifié, oui, par le sang de Christ, mais le mot pur tout seul, hein. Le mot, juste le mot, sans tache, sans défaut, d'accord. Le mot qui est rendu par pur, c'est la traduction, vous allez comprendre, d'un mot que l'on prononce à peu près kataros, catharsis. Ça vous dit quelque chose, la catharsis? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Personne n'a jamais entendu ça? Oui? Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est une sorte de purification, de purge. En fait, j'ai cherché dans le Larousse, et Larousse dit que, bon, pour Aristote, par exemple, hein, C'était un effet de purification. Ce mot qui existe en français, la catharsis, hein, et ce mot-là vient du mot grec qui est traduit par pur ici. Il dit que, donc pour Aristote, c'était un effet de purification qui est produit sur les spectateurs par une représentation dramatique. C'est-à-dire, on présentait des pièces dramatiques et cela avait un effet sur les personnes. Alors, en psychologie, c'est utilisé, hein. Il dit que c'est toute méthode thérapeutique qui vise à obtenir une situation de crise émotionnelle telle que cette manifestation critique provoque une solution du problème que la crise met en scène. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça, le sens du mot, il est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui amène à une crise, et cette crise a pour effet de libérer quelque part, hein, de permettre aux gens de se libérer de cela. Alors, ici, dans un commentaire de John MacArthur, il dit ceci, il dit, un commentaire sur l'évangile de Matthieu, il dit que le terme grec était souvent utilisé pour les métaux qu'on avait raffinés, qu'on faisait subir des épreuves pour extirper de les impuretés. Donc jusqu'à ce que toutes les impuretés soient extraites. Et on laisse seulement le métal à l'état pur. Et donc dans ce sens, on pourrait dire que le mot pur signifie non mélangé, non allié. C'est un métal pur, il n'y a pas de mélange. Il est non corrompu. Donc le sens qu'on retient, on pourrait dire dans notre verset, est celui d'un cœur dans lequel il n'y a pas de mélange, un cœur qui a été purifié, on l'a dit déjà, hein, par Jésus-Christ, par le sang de Christ, un cœur, spirituellement parlant, régénéré, dans lequel il n'y a pas de duplicité. Regardez par exemple ce que Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 22. Vous avez 2 Timothée 2, 22, quelqu'un là, il peut le lire. Voilà, hein, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hein. C'est-à-dire, quand Paul demande à Timothée de fuir les passions de la jeunesse, il demande de retrouver la compagnie de personnes qui invoquent le Seigneur avec un cœur régénéré, un cœur qui a été pardonné, un cœur lavé, un cœur pur, sans mélange. Et donc, le cœur pur, c'est la création, c'est une création de Dieu, hein. David, dans sa prière, le psaume 51, vous vous rappelez de ce qu'il dit ? « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans les Béatitudes ? « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hein? » On voit que le cœur pur, ce n'est pas quelque chose que je produis moi-même. Hein? Le cœur pur, c'est quelque chose que Dieu donne. Hein, que c'est lui qui sauve, qui rachète et qui le donne, comme dans Jérémie, hein, je leur donnerai un cœur nouveau, j'extirperai, hein, le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Il dit même qu'il donnera un cœur et qu'il mettra lui-même sa loi dans le cœur et qu'il fera en sorte que le peuple obéisse à sa loi. On va dire tout cela, ça représente le cœur pur, donc c'est vraiment le cœur régénéré. Et puis aussi, il dit que l'amour vient d'une bonne conscience. Alors, c'est quoi la conscience ? C'est quoi la conscience ? Quelqu'un réfléchit à ça ? C'est permet de juger le mal et le bien. Oui. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Rendre compte de quelque chose. Oui, peut-être, un peu. D'autres ? Alors, quand vous avez lu une bonne conscience, ça vous a dit quoi, n'est-ce pas ? Un esprit serein, une conduite droite, oui, oui.
Moi, je vois le contraire, justement, par rapport, quand on n'a pas une bonne conscience, on se sent coupable tout le temps.
On se sent coupable, voilà, c'est vrai. Alors, on va lire ce qu'on va faire. On va lire quelques versets, et puis on va essayer de cerner avec ces versets-là ce qu'on pourrait dire sur la conscience. Mais ce que vous avez dit, juste la conscience, ça désigne quoi ? C'est la faculté de juger soi-même de la valeur parfois morale de nos propres actions. C'est quelque chose que Dieu nous a donné aux êtres humains, et qui qui est, on la présente souvent comme une voix qui parle à l'intérieur, n'est-ce pas, hein, et qui dit ça c'est bien et qui dit ça c'est mal. Et donc, comme a dit Marcel, ça nous accuse ou bien ça nous conforte, parfois aussi, d'une certaine manière. Alors, on va prendre le temps de lire quelques versets. Je vous donne quelques versets, comme ça vous cherchez. Quelqu'un choisit de lire 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Qui c'est qui veut lire ça? Rapidement, comme ça on va pas... Patricia, ok. Ensuite, 1 Timothée 3, versets 8 et 9. Qui c'est qui veut lire ça? Marcel, d'accord. 1 Timothée 4, verset 2. Quelqu'un d'autre? On est quatre. Rapidement. France Hélène, pardon. Et puis, 2 Timothée 1, verset 3. Juste ces quatre-là. Vidya, c'est ça, tu as levé la main? Ah non, j'ai vu une main se lever. Jean-Pierre, alors. Ton mari, lève à ta place. On y va. 1 Timothée 1, 18-20.
Timothée, mon enfant, voici les soupçons que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer.
D'accord. 1 Timothée 3, 8, 9. On peut lire tout de suite derrière.
Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gaz sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère.
Ils sont sans reproche. Voilà. OK. Donc, on a ici des choses. 1 Timothée 4, 2.
Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la pétrissure dans leur propre conscience.
Voilà. OK. Donc, on voit. Oui. C'est 1 4, 2. C'est ça que tu as lu, hein?
Oui.
Oui, d'accord. Et puis, le dernier, c'était quoi? 1 3, ouais.
Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, et ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières.
Voilà, donc on pourrait encore aller, il y en a pas mal d'autres, mais l'apôtre Paul parle beaucoup, on voit ici, de la conscience quand même, hein, dans sa manière de servir avec la conscience. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il parle de servir d'une conscience pure, d'une bonne conscience. Il encourage Timothée même à avoir une bonne conscience, mais il parle aussi de personnes qui ont eu la conscience, comment il l'a dit, dans un passage, voilà, qui porte une flétrissure dans leur conscience. Okay. Donc la conscience, c'est quelque chose qui peut être bonne. Voilà, on peut servir avec une bonne conscience, mais on peut agir de manière à ce que avec une conscience qui est, je sais pas si on a lu ce passage où il parle d'une conscience souillée. On a lu ça quelque part. Peut-être c'est Tite 1.15. Quelqu'un à Tite 1.15 peut-être peut lire Tite 1.15. Pas si je l'ai, on l'a pas lu là. C'est au verset, non? Peut-être c'est pas.
Tout est sûr à ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées.
Voilà, ok, donc il parle ici, c'est bien ça, la conscience qui est souillée. Hein. Il parle d'un côté, on peut avoir la bonne conscience, et d'un côté, la conscience qui est souillée. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous donne, donc cette espèce de gendarme interne que Dieu nous donne et qui peut nous dire. Même à quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, ça c'est bien et ça c'est pas mal. Et on peut le voir lorsque Jésus, vous rappelez, les Juifs emmenaient vers Jésus une femme samaritaine, une femme adultère. Et puis Jésus s'est baissé, il a écrit sur le sol, et puis il a dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Et la Bible dit ceci, parce que j'ai noté le verset, il dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. C'est-à-dire que ici, Jésus lance une parole, et cette parole les fait réfléchir en eux-mêmes. Il dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Et puis là, ils font ça, et ah non, ils peuvent pas. Et donc, ils sont accusés par leur propre conscience qu'ils ont péché, qu'ils ont fait mal, et qu'ils ne sont pas en état de porter de jugement contre cette personne. Et donc ça, c'est la conscience qui agit, hein, qui peut agir, comment dirais-je, quand elle est quand elle est bonne, hein, quand elle est bien préservée, mais parfois on peut avoir la conscience souillée, c'est comme on a lu ici, et là elle n'est plus, on dit que la conscience a été cautérisée, parfois on dit ça en français, hein, ça veut dire qu'elle ne répond plus, hein, on est tellement allé contre cette conscience que finalement elle ne remplit plus du tout son rôle. Pour qu'elle puisse remplir son rôle, il faut qu'elle soit toujours correctement alimentée. Hein. Si on prend l'habitude d'aller contre cette conscience, eh bien, elle finit par s'éteindre. Paul souligne vraiment qu'il a agi beaucoup. Même, il parle, on n'a pas lu ces versets, mais Actes chapitre 23, verset 1, il parle de sa bonne conscience devant Dieu. Il dit, hein, Actes 23, 1, quelqu'un a ça ici, il parle de sa bonne conscience devant Dieu.
Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit : homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu.
Voilà, je me suis conduit devant Dieu en toute bonne conscience. Et puis, en chapitre d'après, 23, verset 16, si tu l'as, tu es déjà à côté, donc tu peux le lire. 24, verset 16, il dit : voilà, une conscience sans reproche devant Dieu et aussi devant Dieu. Mais il dit, je m'efforce d'avoir cette bonne conscience. Ça veut dire qu'il y a peut-être probablement des choses que l'on peut faire pour avoir cette bonne conscience. Hein? Si on reste là et qu'on fait rien et qu'on est devant la télé, on n'aura pas cette bonne conscience. Il y a peut-être des choses qu'il faut faire, hein, dans la conduite, des choses qu'il faut surveiller, qu'il faut pour que cette conscience soit toujours bonne et qu'elle n'ait rien à nous reprocher dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans les interactions que nous avons les uns avec les autres. Je continue. Néanmoins, je voulais juste souligner que Paul ne prend pas sa conscience comme, dans le passage, il le dit, hein, il dit, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Et attention, il ne prend pas sa conscience pour dire, voilà, j'ai rien, elle ne me reproche rien, je suis juste devant Dieu. C'est bon. Non, non, il est toujours conscient qu'il est un pécheur justifié par la foi en Christ seul, mais il dit néanmoins qu'il s'efforce dans sa vie d'avoir une bonne conscience. Et c'est cette bonne conscience-là, il ne la prend pas comme ce qu'il pourrait présenter à Dieu et pour être accepté de lui. Il reste conscient de cela. Et puis, troisièmement, je reviens, la foi sincère, on va aller vite là. Donc, c'est une foi sincère, ça veut dire quoi? Sans hypocrisie, exactement ça. Sans hypocrisie. Donc, qui n'est pas déguisé. Hein. L'apôtre Paul, au 2 Timothée 1, 5, il parlait de la foi sincère qui est en Timothée. Il dit, je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'est-à-dire qu'une vraie foi, ce n'est pas juste un habit qu'il a mis, mais il a pu mesurer que cette foi était réelle. Il y avait du contenant, hein, et du contenu plutôt dans cette foi. Donc ça c'est simple, hein, donc ce n'est pas une foi. On peut faire semblant, hein, on peut avoir le langage qu'il faut, la formule de prière qu'il faut, les mots qu'il faut quand on parle aux gens, sans que la foi soit réelle, soit sincère, hein, soit sans hypocrisie. On peut faire les choses avec beaucoup d'hypocrisie. Et Paul dit que l'amour dont il parle ici, c'est un amour qui vient d'une véritable foi en Jésus-Christ, qui vient d'une bonne conscience de toujours chercher à agir de manière saine, pure, maintenir cette bonne conscience, et surtout qui vient d'un cœur qui est régénéré. Parce que seul le cœur régénéré peut aimer de cet amour-là. Alors, on avance un tout petit peu, parce que l'heure avance. Le verset 6, ici, je vous avais mis une question, peut-être, je ne sais plus. Hein. Oui, qu'est-ce qui caractérise les faux enseignants au verset 7. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cela? Qu'est-ce qui les caractérise un peu? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oui, quelqu'un a mis autre chose? Il n'y a que ça? Oui, ils s'égarent dans des discours sans fondement. Il y a ça aussi, hein, ils ont des discours creux, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils se...
J'attends pas.
Détournent, ils se détournent, voilà. Hein, ils se détournent de la... De quoi ils se détournent? De ces choses, hein, de la vérité, de la foi sincère, du cœur, etc. Oui. Il y a une autre chose qu'il dit. Si. Ils veulent se montrer. Ils veulent être docteurs. Donc, ils ont de l'ambition, ou bien, ou au moins de la prétention. La prétention. Donc tout ça, c'est comme ça qu'il les caractérise. Mais je sais pas, c'est un verset qui m'a toujours fait rire, hein. Un peu. Il y a pas beaucoup de versets qui font rire, mais des fois celui-ci, quand je le lis, c'est quand même Paul est ironique ici, hein, à foison comme on dit. Et là, il pique vraiment dans un sens. On appelle ça souvent une ironie mordante. Hein. C'est piquant. Il dit ici. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés d'un discours. Ils veulent être docteurs, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors premièrement, je voudrais souligner, ici, Paul met en évidence leur déviance doctrinale. On pourrait dire. Ça c'est ce qu'il dit quand il dit quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc, détourné et égaré, si vous lisez 1 et 2 Timothée, il y a plusieurs fois l'apôtre Paul parle de personnes qui se sont détournées, qui se sont égarées. Je vous donne juste les références, on n'aura pas le temps de les lire, mais 1 Timothée 5, verset 15, 1 Timothée 6, verset 20, 1 Timothée 6, verset 21, 2 Timothée 2, verset 18 et 2 Timothée 4, 4. Hein. On va peut-être revoir ce verset-là tout à l'heure, 2 Timothée 4, 4. Donc ici, il dit qu'il y a une distance qui s'est établie entre leur enseignement et celui de l'apôtre Paul. Ils se sont détournés des choses que Paul vient de citer ici, de la foi sincère, mais aussi de l'enseignement pur, pour se tourner vers des fables, vers des choses qui sont vaines. La vérité n'est plus leur souci, ce qu'il est en train de dire ici. Et ce qui les intéresse, c'est la spéculation. C'est vraiment le discours creux. Quand on se détourne de la vérité, on tombe inévitablement dans la vanité. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc quand on se détourne de la vérité, on tombe inévitablement dans la vanité. Donc si on ne se maintient pas dans la vérité, tout ce qu'on peut apporter après, c'est creux. Et il dit, par exemple, en 2 Timothée 4, versets 3 et 4, je vous lis, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille pour ne pas détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous voyez, quand on se détourne de la vérité, on se tourne inévitablement vers des fables. Hier, il y a quelqu'un qui a appelé pendant qu'on avait le cours Vérité fondamentale, je ne sais pas qui c'était, j'ai dit, bon, j'ai accroché. Et puis après, en partant de la voiture, donc j'ai rappelé cette personne, et puis je dis, bon, je ne sais pas qui. Et c'était un homme, et je ne le connaissais pas, il me dit, vous êtes pasteur? Je dis, oui, oui. Il me dit, voilà, en 2011, j'ai eu une vision, et donc j'ai vu une main de feu, il me dit, et puis il y avait une jeune fille aussi, à côté. Alors, et puis il me dit, voilà, on est en 2019. Alors j'ai compris le voilà, on est en 2019, comme ça c'était la vision, et 2019, il n'y a toujours rien. Alors j'avais compris ça tout de suite. Et donc il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, bon, les visions, moi, il me dit, je suis chrétien évangélique. Il m'a dit, d'abord, je suis chrétien évangélique. J'ai dit, vous savez, les visions, on peut en avoir tout le temps, hein, tout le monde peut avoir ses visions. Moi, j'ai rien contre les visions, mais tout le monde peut avoir des visions. Ce qui est important, c'est de s'attacher, si vous dites chrétien, à la vérité de la parole telle qu'elle est enseignée, à Jésus-Christ, à lui faire confiance, etc. et tout ça. Et il me dit, oui, parce que après, il finit par dire, mais parce que bon, voilà, je désire me marier et tout ça. J'ai dit, oui, je comprends bien, mais vous devez faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et peut-être qu'il vous donnera quelqu'un, mais peut-être aussi ne le fera-t-il pas. Et donc, il faut accepter sa volonté. Et je dis, mais vous êtes en région parisienne? Il me dit, non, je suis à Clermont-Ferrand. Je dis, ah, et vous allez dans une église? Ah, bah oui, je dis, mais vous en avez parlé à votre pasteur? Il me dit, oui. J'ai dit, et qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, non, il m'a dit que, bon, c'est pas, faut pas s'attacher à ces choses-là, c'est pas, enfin, je pense qu'il avait dit à peu près comme ce que je lui ai dit. Et puis, j'ai dit, ben, vous devriez l'écouter, et puis je vais prier pour vous, comment vous vous appelez, bon, etc. Mais, pour que vous puissiez vraiment vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous dis ça pour vous dire que voilà, un homme qui cherche des gens qui peuvent aller dans son sens. Son pasteur lui dit quelque chose, ce que Paul dit ici. Il dit, on se donne des foules de docteurs selon notre désir. Il cherche quelqu'un qui pourra aller dans son sens, jusqu'à ce qu'il trouve. Et après, il pourra dire, ah, mais je connais un pasteur là-bas qui m'a dit ceci ou qui m'a dit cela. Plutôt que, parce qu'il y a là le désir d'entendre des choses qui vont dans le sens que l'on a ici, hein. Et c'est ce que Paul souligne. Donc, il y a une déviance ici doctrinale. Non, il n'y a pas d'alternative à la vérité autre que l'erreur et la vanité. Si on se détourne de la vérité, on tombe dans l'erreur. Et puis, deuxième trait de caractéristique ici, que l'apôtre souligne, c'est leur ambition personnelle. Il dit ici, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et donc cette phrase de l'apôtre Paul, je dis, elle est terrible quand même, hein, parce qu'elle décrit non seulement l'ambition de ces personnes, mais en même temps la distance qui existe entre leur ambition et la réalité. Ils ambitionnent être docteurs, mais il n'y a rien de tout ça. C'est creux, c'est sans profondeur. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, et encore moins ce qu'ils affirment avec force. Et donc ces personnes utilisaient la loi, bien sûr, hein, parce qu'il dit ils veulent être docteurs de la loi, et on comprend qu'ils faisaient de la spéculation à partir de la loi de Moïse, mais ils n'ont aucune profondeur pour ces choses-là. C'est un peu comme ce qu'on appelait les sophistes. Hein. J'ai trouvé, là, au 4e siècle, il y avait ce courant philosophique. Hein, les sophistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils développaient des raisonnements dont le but était uniquement l'efficacité persuasive et non la vérité. C'est-à-dire, il fallait trouver des formes où on peut persuader les gens de quelque chose, même si c'est un mensonge. C'est pas ça qui est important. C'est l'art, c'est la technicité dans l'art de la persuasion. Et donc, à ce titre, il y avait beaucoup de vices, de logique dans ces choses-là. Mais qu'importe, ce qui était important, c'était de pouvoir persuader les gens de quelque chose. Et ces gens-là, c'est un petit peu ça. Ils veulent être docteurs, c'était être reconnu ici en tant que tel. Et tout ce qui importe pour eux, c'est pas la vérité, mais c'est le fait d'être considéré, d'avoir les gens qui se tournent vers eux et qui les regardent comme des docteurs ici. Donc une telle ambition ne conduit pas, bien sûr, les âmes à Christ, mais les conduit à ces personnes-là, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates 4, verset 17. J'ai terminé, chers frères et sœurs, juste quelques conclusions, et puis c'est tout. Une chose quand même qu'on doit apprendre de cela, c'est qu'on doit développer une conception scripturaire, biblique de l'amour. C'est important. Notre conception de l'amour est parfois quelque chose de mielleux. Hein? On n'ose pas affronter la réalité en face, les problèmes en face. Si quelqu'un dit quelque chose, on dit « Oh, tu manques d'amour, toi. Hein » Un collègue m'a dit une fois, quelqu'un que j'ai rencontré, bon, mais qui est un collègue, on avait un long chemin ensemble, et puis on a parlé de l'évangile et tout cela. Et il me dit « Mais si ton fils, qui est chrétien, te dit qu'il veut épouser une jeune fille qui est d'une autre religion, est-ce que tu accepterais ?» J'ai dit « Non. » Il me dit « Mais tu vois, ça c'est un manque d'amour. » Alors, j'essaie d'expliquer ce que c'était que l'amour, mais il m'a dit, bon, gentiment, mais il m'a dit que, mais tu vois, ça, c'est un manque d'amour. Moi, c'est là que je n'arrive pas à accepter. Oui. Et pour les gens, aimer, c'est quoi? C'est être tolérant, ouvrir les bras. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Et puis voilà, hein. Et puis, on peut mélanger tout le monde avec tout le monde. Et c'est ça, aimer. Mais l'amour, tel que le décrit l'écriture, n'est pas une espèce de vague tolérance, n'est-ce pas? Où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. L'amour, selon l'Écriture, s'articule toujours avec la vérité. Toujours avec la vérité. Est-ce qu'on oserait dire que Jésus manquait d'amour? Non, impossible. Et pourtant, quand on lit les répliques de Jésus dans la Bible, ou les entretiens qu'il avait, c'était pas, ça n'avait pas l'air tendre hein, quand même, hein. Mais en même temps, il était plein d'amour, il était soucieux de la vérité. Il a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et en même temps, il est celui qui aime. Et donc, c'est important de considérer ces choses. Les parents qui laissent, un parent qui laisse son enfant sans contrainte, sans le contraindre à l'obéissance, eh bien, il ne l'aime pas en réalité. Il ne l'aime pas. Hein. Et ce qu'il appelle de l'amour, ce n'est que de la faiblesse. Hein, et donc, il faut qu'il le contraigne à obéir. Parce qu'après, cet enfant-là, plus tard, bien, ce sera un problème pour lui-même et aussi pour la société et pour les autres. Alors, bien sûr, 1 Corinthiens chapitre 13 dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne se vante pas. Mais nous devons quand même considérer ce que l'apôtre Paul montre ici, c'est que même si l'amour, ce caractère-là demeure dans l'amour, eh bien cet amour-là doit se manifester parfois par des fermes oppositions lorsque cela est nécessaire. Surtout lorsque la vérité de l'évangile est en jeu ou lorsque la croissance même spirituelle d'une œuvre ou de quelqu'un est en jeu. Et je dirais que le monde ne doit pas nous imposer, chers frères et sœurs, notre vision de l'amour. Pour le monde, il décide ce que c'est que l'amour. Quand il y a eu le grand vacarme du mariage pour tous, il y a quelques temps, il y avait des gens qui brandissaient, bien, les gens, ils s'aiment. S'ils s'aiment, pourquoi est-ce qu'on s'oppose à ce qu'ils se mettent ensemble? Donc les gens sont en train de nous dire ce que c'est que l'amour. Vous savez, l'amour a existé avant la création du monde. De toute éternité, dans la Trinité, l'amour a existé. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il cherchait quelque chose à aimer. Au contraire, Dieu, l'amour existait déjà. Et la Bible dit que l'amour est de Dieu. C'est pas des hommes, l'amour est de Dieu. Et il dit que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc c'est Dieu, la parole, qui définit ce que c'est vraiment que l'amour. Et on ne doit pas laisser le monde faire cela à notre place. Puis deuxième et dernière conclusion. Ce n'est pas parce qu'un enseignement se base sur l'Écriture qu'il est conforme à l'Écriture. Hein? Ces hommes basaient leur spéculation sur la loi de Moïse. Ils essayaient de tirer des choses, ils échafaudaient des plans. L'apôtre Paul dit que c'était creux, mais ils s'appuyaient sur l'Écriture, n'est-ce pas? On rencontre aujourd'hui beaucoup de gens qui s'appuient sur l'Écriture et puis qui sortent des choses et qui disent des choses. Et la majorité des erreurs doctrinales ont pour appui, souvent, l'Écriture. Un verset sorti de son contexte, peut-être. Mais c'est comme cela que l'on crée des sectes. Okay? Donc ce n'est pas parce que quelque chose s'appuie sur l'Écriture, et nous ne devons pas faire confiance aux gens qui nous disent « Ah ouais, mais c'est dans l'Écriture », ou nous-mêmes ne devons pas dire « Mais il s'appuie sur la Bible hein. ». Comme quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit « Oui, quelqu'un a fait quelque chose pour moi, cette personne m'a guéri, et la personne... » Mais la personne, elle dit toujours « Au nom de Jésus ». Au nom de Jésus. C'est pas une garantie. Si la personne dit, ben, mais je me base sur la Bible, c'est la Bible. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. C'est pas parce qu'on est appuyé sur la Bible que l'on est conforme à la parole de Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Ici, il faut regarder où est-ce que la chose conduit. Est-ce qu'elle conduit à l'amour pour Dieu et l'amour pour les uns et les autres? Ça, c'est le signe distinctif. Et Paul dit ici, le but de ce commandement, c'est vraiment l'amour. Les faux docteurs, là, ici, ne sont pas motivés par l'amour. Le vrai enfant de Dieu et la vérité de l'Évangile conduit toujours à l'amour. Nous allons prier. Seigneur, merci encore pour ta parole et je te remercie pour chacun ici et ce temps que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Donne-nous d'être attachés à la vérité de ta parole, à nous en imprégner, Seigneur, à apprendre à la connaître afin de pouvoir déceler l'erreur quand elle se présente à nous. Seigneur, je te prie que tu nous conduises chacun, que tu fortifies nos cœurs et que ta parole continue à nous façonner et donne-nous des cœurs qui obéissants, Seigneur, afin que nous puissions la mettre en pratique. Que ton nom soit béni. Amen.